Le premier texte il sera pris dans Matthieu au chapitre 5, des versets 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'après sa femme, d'avec sa femme, il doit lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Le deuxième texte sera pris dans 1 Samuel au chapitre 15, versets 22 et 23. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice, la soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Le troisième texte sera pris dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, verset 10. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. L'histoire des civilisations montre que les croyants ont été encadrés et sévèrement réprimés quand ils sortaient du cadre officiel, alors que les responsables politiques et religieux, en toute impunité, passaient outre les lois qu'ils imposaient aux autres. Si dans le plan de Dieu, les lois régissant le mariage s'imposent tant à l'homme qu'à la femme au cours des âges, l'homme s'est octroyé des droits qu'il a refusés à la femme, la sanctionnant plus sévèrement quand elle en sortait des limites. Concernant l'adultère, en France, il a fallu attendre 1975 pour que la femme ne soit plus condamnée à la prison, alors que l'homme n'encourait qu'une amende. Les mouvements féministes, l'évolution des mœurs de nos sociétés modernes et la recherche du plaisir sous toutes ses formes ont fait de l'adultère un comportement banal, voire encouragé. La Bible souligne que l'adultère ne se résume pas à un simple acte physique, puisqu'en désobéissant à un commandement, nous désobéissons à toute la loi qui régit notre relation avec Dieu et notre prochain. Ce que nous faisons aux autres se répercute sur notre relation à Dieu et cette dernière influence notre comportement vis-à-vis des autres. Nous verrons les normes bibliques de l'adultère et la réponse proposée par Dieu. L'adultère selon la Bible. L'adultère est défini comme une relation consentie en dehors du mariage entre deux personnes dont une au moins est mariée. En France, les tribunaux font une distinction entre l'infidélité et l'adultère qui sont deux notions voisines. L'infidélité s'apparente plus à une injure pour l'autre époux et constitue un manquement à la dignité du mariage, même en l'absence d'adultère. Si la femme a autorité sur le corps de son mari, et le mari a autorité sur le corps de sa femme, chaque conjoint ne devrait donc pas tolérer que l'autre fasse n'importe quoi avec son corps, sinon il en devient complice. À notre conversion, nous donnons notre vie à Dieu. Nous n'avons donc plus d'autorité dessus. L'infidélité, premier pas vers l'adultère, commence par ce constat : tu as abandonné ton premier amour. L'être aimé n'a plus la première place dans notre vie. Ne trahissons pas la parole que nous avons donnée tant à Dieu qu'à notre conjoint pour les personnes mariées. en faisant n'importe quoi dans notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu n'intervient pas dans notre vie qu'il approuve notre comportement. Il patiente pour nous amener à nous repentir. Ne lassons pas sa patience. Il y a deux sortes d'adultères, l'adultère physique et l'adultère spirituel, sont tous deux la rupture volontaire d'une alliance librement contractée et fondée sur l'amour. Pour les Juifs, seule la femme qui trompait son mari était adultère et donc punie, et ce, en contradiction avec la loi de Moïse qui condamnait les deux partenaires. L'adultère commence dans notre cœur par un désir. Cela ne veut pas dire que toute personne désirée à son insu commet un adultère, mais Jésus veut souligner l'importance primordiale de la vie intérieure en opposition au formalisme stérile des religieux qui donnent bonne conscience. Ce que je suis se retrouve dans ma manière de vivre, de penser et de communiquer avec les autres. L'adultère spirituel est le refus de mettre Dieu à la première place. C'est aussi être partagé entre les exigences de Dieu, notre intérêt personnel et ce que nous fait miroiter la société. L'idolâtrie, le légalisme, la modification de la loi divine, la désobéissance, l'inquiétude, la superstition, reproches faits par Jésus aux religieux en sont certaines de ses caractéristiques. Comment considérons-nous l'autre? Comme une personne faite à l'image de Dieu ou comme un objet pour nous satisfaire? Examinons nos actes et nos motivations au travers de la Bible afin de savoir si nous agissons selon les normes de Dieu. Son chemin est dans la sainteté et non pas dans les compromis qui nous conduisent à accepter ce qui est en opposition à sa volonté. L'idolâtrie dans la Bible est assimilée à l'adultère. Quand le peuple était idolâtre, Dieu l'a traité d'adultère. Nous pourrions croire qu'être attaché au bien matériel, vivre dans la débauche et le culte de la personnalité sont les seules idolâtries. Le non-respect de nos engagements vis-à-vis de Dieu et des hommes est aussi grave que l'adultère, nous rappelle la Bible. L'idolâtrie rejette Dieu en tant que référence absolue et met quelque chose, nos ressentis ou quelqu'un à sa place ou au même niveau d'autorité. Ce comportement se retrouve dans toutes les églises, malheureusement, certains croyants plaçant la tradition, les habitudes d'église et l'autorité du responsable spirituel au-dessus de la volonté de Dieu. Le rejet de l'autorité de Dieu a pour point de départ, dans beaucoup de cas, l'orgueil. Cet orgueil est poussé soit par la frustration, on le voit au paradis, Adam et Ève, le diable leur dit « vous serez comme des dieux », soit par la fausse opinion de qui nous sommes par rapport à Dieu. Dieu fera ce reproche au roi de Tyr, « toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta pensée pour la pensée de Dieu ». Et Paul écrit « se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur ». L'idolâtrie a aussi comme fondement l'oubli de tout ce que Dieu a fait pour nous, comme nous le montre l'histoire du peuple de Dieu, et le psaume 106 est là pour répéter « Dieu fit des choses et ils oublièrent, Dieu fit des choses pour eux et ils oublièrent et se tournèrent à nouveau vers les faux dieux ». Les conséquences de l'orgueil et de l'oubli nous conduisent à nous détourner de Dieu et à laisser les comportements qui brisent les liens sociaux à se propager dans la société, entraînant la dispersion de la compassion envers ceux qui sont dans la détresse. Le légalisme, ça ne touche personne, parce que nous sommes mieux que les gens qui sont légalistes, mais on se rend compte qu'au travers de notre vie, on est plus ou moins attaché à ce légalisme. L'égalisme est une forme de l'orgueil. Il apparaît quand nous prenons la place de Dieu pour décider ce qui est conforme à sa volonté pour nous déclarer justes. La Bible affirme que tous nos actes conformes à la volonté sont assimilés à des vêtements souillés. Ils ne peuvent donc pas nous donner bonne conscience quand nous obéissons à Dieu. C'est l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ qui nous déclare justes. La mise en pratique de la volonté de Dieu est avant tout un acte de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous et non une manière de nous croire irréprochables. La désobéissance. Pour Dieu, nous avons vu au travers du texte de Samuel, la désobéissance volontaire est un blasphème, nous rappelle le livre des Nombres. Elle est aussi grave que l'occultisme, l'idolâtrie, et l'idolâtrie est assimilée à l'adultère. Quand nous désobéissons à Dieu, nous commettons un adultère, soit en faisant le mal, soit en refusant de faire le bien. Paul et Pierre nous demandent aussi d'obéir aux autorités, car elles sont instituées par Dieu. En refusant de leur obéir, nous désobéissons à Dieu. Apprenons à obéir à la volonté de Dieu, même si cela est difficile et douloureux. Même si nos parents et nos supérieurs hiérarchiques sont difficiles à supporter, obéissons-leur et respectons les autorités qui dirigent notre pays. L'inquiétude. On pourrait croire que c'est normal, mais la Bible aussi le taxe aussi l'inquiétude d'idolâtrie. Le passage dans Matthieu qui parle des inquiétudes commence par « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est un peu surprenant que Matthieu commence par cela pour parler des inquiétudes. Donc, après, nos inquiétudes sont une idolâtrie, car elles placent nos préoccupations et les événements qui touchent notre vie au-dessus de la puissance et de la souveraineté de Dieu, alors que la Bible affirme que Dieu et Jésus-Christ prennent soin de nous et maîtrisent tous les événements qui nous touchent dans les moindres détails. Regardons la réalité comme Dieu la voit et souvenons-nous qu'il est fidèle à ses promesses. La superstition. Beaucoup de croyants ne se rendent pas compte que leurs paroles, leurs gestes, l'interprétation des événements et leur manière d'utiliser la Bible ne sont que de la superstition. La superstition attribue un pouvoir aux choses, aux gestes et aux événements et nous fait oublier que c'est Dieu à tout pouvoir. C'est Dieu qui a tout pouvoir sur notre vie. La vie chrétienne a pour seul fondement notre foi en Dieu. Nous n'oublions jamais. Les conséquences de l'adultère. Là, je parle simplement des conséquences de l'adultère physique, parce que l'adultère moral, on le voit spirituel, on le voit avec toute la décadence du peuple d'Israël. La femme de Potiphar, son désir d'adultère rejeté, la pousse à mentir. Son mensonge va conduire un innocent en prison. L'adultère de David le pousse à commettre un meurtre. Le malheur touchera sa famille. Il y aura le viol incestueux d'une de ses filles et d'une dizaine de ses concubines, la mort de deux de ses fils et une guerre civile. L'idolâtrie et tout ce qui en découle conduisent à la destruction d'un pays par des catastrophes naturelles et des conflits. Au travers de l'illustration de se couper une main ou de s'arracher un œil, Jésus veut montrer que rester fidèle à Dieu entraîne parfois de la souffrance. Sommes-nous prêts à payer le prix de l'obéissance avant de désobéir à Dieu? Réfléchissons aux conséquences de nos actes sur le long terme, tant pour nous que pour les autres. L'amour, la réponse proposée par Dieu. Pourquoi l'adultère est si grave aux yeux de Dieu? Le mariage voulu par Dieu symbolise l'union de Jésus-Christ avec l'Église. Le sacrifice de Jésus-Christ est l'affirmation de l'amour et du pardon de Dieu pour tous les péchés de l'humanité. Trahison de l'amour, L'adultère peut se comprendre sur le plan spirituel comme le mépris de l'amour et du pardon de Dieu et donc du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Concernant le divorce, le document remis à la femme répudiée protégeait ses droits, mais ne justifiait pas le divorce. Moïse promulgua la loi relative au divorce parce que les hommes répudiaient leurs femmes sans raison valable. Jésus dit à ses interlocuteurs que la lettre de divorce a été donnée à cause de la dureté du cœur humain. Le divorce, dans certaines situations, révèle que nous considérons l'autre comme notre objet, car quand il a cessé de nous plaire, nous nous en débarrassons. Mais aussi, ça révèle aussi l'impossibilité de se repentir, à demander ou à mépriser le pardon pour la personne fautive, ou l'impossibilité à pardonner de la part de la victime. Dans le plan de Dieu, la séparation sur un caprice ne rompt pas notre engagement de fidélité à notre ex-conjoint. En se mariant, l'homme et la femme s'engagent plus qu'ils ne le pensent aux yeux de Dieu. Prenons conscience de la dureté de notre cœur. Apprenons à vivre la repentance et le pardon. Pardonner est difficile, mais beaucoup moins quand nous aimons. Nous avons offensé Dieu et c'est lui qui a payé le prix du pardon en sacrifiant son Fils Jésus-Christ. L'amour que Dieu met dans notre cœur nous permet de surmonter notre souffrance pour résoudre les conflits, au lieu de rechercher la facilité dans la séparation. Prenons l'initiative de la réconciliation comme Dieu l'a fait et pardonnons la personne qui nous a trahis ou blessés. L'amour est la réponse de Dieu à l'adultère. La Bible affirme que rien ne peut détruire l'amour qui vient de Dieu. Cet amour supporte tout et pardonne tout. Il couvre toutes les fautes. L'amour ne cache pas les fautes, car il se complaît à la vérité, mais elles ne sont plus un obstacle pour lui dans sa relation aux autres. Rien n'est impardonnable quand nous aimons. Dieu nous l'a montré par la mort de son Fils. L'amour que nous avons pour les autres est-il une réaction émotionnelle à une situation ou est-il l'union de notre volonté à celle de Dieu? L'amour ne subit pas, il se vit avec les autres. Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à mourir pour nous afin de nous réconcilier avec Dieu. Si son sacrifice a une portée éternelle et universelle, pardonnons ceux qui nous trahissent. La souffrance qu'il nous cause fait souffrir Jésus-Christ. Notre absence de pardon le fait encore plus souffrir, car elle est le refus de donner aux autres l'amour et le pardon que nous avons reçus de lui. Elle est aussi l'aveu du mépris ou l'incompréhension de la valeur de son pardon. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne, dit le psaume 130. Le pardon fait partie de l'amour, et l'amour est l'identité de Dieu. Réfléchissons à notre capacité d'aimer et de nous aimer, de pardonner et de nous pardonner. Nous saurons ainsi la place que Dieu occupe dans notre vie. Surmontons nos émotions et nos sentiments pour refléter au travers de nos actes l'amour et le pardon de Dieu. Dieu a fait l'impossible à la croix, mais il nous laisse accomplir ce que nous sommes capables de faire avec son aide. Comment mettre cet amour en pratique? Quand le peuple se détournait de Dieu, il n'était pas exterminé, mais Dieu le punissait pour l'amener à se repentir. Dieu n'applique pas la loi dans toute sa rigueur à son peuple, car il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il change de manière de vivre. La peine de mort pour adultère n'était pas toujours requise, puisque quand un mari avait des doutes sur la fidélité de son épouse, elle pouvait subir l'épreuve des eaux amères. Il n'était pas mentionné qu'elle devait être exécutée si elle était reconnue coupable d'infidélité. Pour Jésus, le divorce est acceptable en cas d'adultère. Dans le récit de la femme adultère, Jésus-Christ montre qu'une loi répressive ne peut pas résoudre toutes les situations. Seul l'amour qui vient de Dieu et le pardon sont la réponse à l'adultère en donnant une nouvelle possibilité aux personnes de se repentir et de changer de comportement. Sommes-nous prêts à laisser Dieu agir en nous en passant outre les lois, les conventions sociales et les comportements d'une personne pour l'encourager à changer d'attitude? Si le constat est négatif, demandons à Dieu de nous donner la volonté d'aimer comme lui aime et de fortifier notre foi pour le laisser agir dans notre vie. L'amour que Dieu met dans notre cœur doit aussi se manifester dans nos relations dans l'Église. La vie communautaire implique des blessures, car nous nous confrontons à des opinions et des personnalités parfois très marquées et différentes de la nôtre. Si nous sommes blessés, pardonnons, afin que rien ne fasse obstacle à nos prières et que nous restions unis dans l'amour. Comment pouvons-nous dire, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, ou qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, si dans l'Église nous ne sommes pas capables de pardonner et d'aimer là où les personnes qui nous ont blessés ou trahis? Jésus-Christ, dans sa prière, lors de son dernier repas, rappelle à ses apôtres qu'il leur a donné la gloire que son Père lui a donnée pour qu'ils soient unis. Cette prière de Jésus est valable pour tous ceux qui croiront au témoignage des apôtres. La gloire de Dieu est la révélation de Dieu tel qu'il est au travers de notre vie. Étouffer notre colère ou nos rancœurs, ce n'est pas pardonner, car ce comportement manifeste que nous sommes dirigés par le péché des autres au lieu d'obéir à Dieu. Approchons-nous de Dieu. Sa présence nous aidera à aimer et à pardonner comme lui le fait pour nous. Comment se manifeste cet amour? Par le pardon et la réhabilitation de la personne fautive après sa repentance, comme Dieu le fit avec David, avec le roi Manassé, Jésus avec Pierre qui l'avait renié, mais aussi avec les autres apôtres qui l'ont tous abandonné. Par la communion fraternelle, en donnant à chacun la même valeur, le même respect. Aimons non seulement en parole, mais aussi par des actes. Jésus dit, celui qui ne met pas en pratique ma parole est un insensé. Si ces mots peuvent choquer, dans un vocabulaire plus moderne, nous dirions, c'est un abruti ou un imbécile. Et si ces mots peuvent choquer, cela choque encore plus Dieu quand nous ne mettons pas en pratique sa parole. Nos actes seront empreints de l'amour de Dieu, car sans cet amour, cela ne sert à rien, car ils n'auront pas l'impact voulu par Dieu dans la vie de la personne qui reçoit que dans la nôtre. Dieu nous demande de le laisser agir au travers de nous. Arrêtons de faire obstacle à son action dans notre vie. En conclusion, en regardant notre manière de vivre, reconnaissons que nous avons tous commis l'adultère dans notre vie. Acceptons que nous ne sommes pas meilleurs que les autres et restons humbles. Soyons conscients que l'adultère fait souffrir la personne qui en est victime et brise les relations. Seule la repentance de la personne fautive, l'amour et le pardon de la victime rétablissent une relation brisée. Dieu nous donne la force et la volonté d'aimer comme lui nous aime, de reconnaître aussi nos fautes, mais aussi de pardonner et d'accueillir celui qui nous a trahis et se repent. Veillons à notre manière de vivre, de penser, ainsi qu'à la motivation de nos relations, tant avec Dieu qu'avec notre prochain, afin d'aimer et de rester fidèles à notre parole envers eux. Je vais inviter les musiciens à monter sur l'estrade pour entonner le prochain chant.